Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Sergio Coronado, ancien député, candidat aux élections européennes pour la France insoumise. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Sergio Coronado, au lendemain d'un nouveau week-end de mobilisation des Gilets jaunes, le président Macron a diffusé une lettre aux Français où il soumet une trentaine de questions qui doivent faire l'objet de débats dans les mairies. Avant de parler du contenu de cette lettre, est-ce que vous approuvez la méthode du pouvoir pour répondre à la colère sur le pouvoir d'achat ?
Il me semble en fait que cette lettre est symptomatique de la crise démocratique que nous vivons et sur laquelle en fait les Gilets jaunes dans leur ensemble ont mis le doigt. C'est-à-dire que la lettre est longue, hein, c'est une page, c'est assez rare pour que ce soit souligné. Le nombre de sujets qui sont listés est assez important. Et pour autant, en fait, ce que l'on constate, c'est que c'est une lettre qui fait du président de la République le grand ordonnateur. C'est lui qui décide des thèmes, c'est lui qui décide de la méthode, c'est lui qui décide de celles et de ceux qui seront chargés de l'animation de ce débat, puisque deux ministres vont piloter le grand débat après le départ, ou en tout cas la volonté de ne pas le faire de Chantal Jouanneau. Et puis c'est le président lui-même, seul, non pas le Parlement, qui va décider de ce qu'il faudra en retenir. Et je crois qu'on atteint là les limites de la Ve République, en fait. Cette verticalité qu'il a voulu restaurer, cette espèce de pouvoir monarchique, qui aujourd'hui fait tant de mal, en fait, au pays. Il y a toute une série de questions qui ont été soulevées par les Gilets jaunes, parfois de manière confuse, mais ça s'est affiné au fur et à mesure que le mouvement s'est développé. En tout cas, acte après acte, c'est la question de la justice fiscale. Il y a une exigence d'égalité, moi, qui me semble réconfortante. On a pu, à un moment ou à un autre, au regard des violences, et notamment des violences contre des journalistes, l'apparition de quelques thèmes complotistes, avoir quelques craintes. Et pour autant, ce que l'on constate, c'est que c'est un mouvement terriblement, profondément français. C'est un mouvement qui demande de l'égalité, de la justice, un mouvement contre les privilèges. Il y a la question démocratique qui est posée. Ce sont des gens qui, cela a été dit par des sociologues et quelques chercheurs, qui parfois, en fait, participent pour la première fois à un mouvement de mobilisation de cette ampleur, un mouvement populaire, et qui souhaitent, en fait, participer plus directement à la vie publique, à la vie démocratique. Cette idée que tous les 5 ans, on choisit quelqu'un et qu'on lui donne un chèque en blanc pour gouverner sans qu'on y participe jamais aux décisions qui sont prises, me semble révolue. D'ailleurs, ça permet de réfléchir aux conditions d'élection d'Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il... L'élection était légitime. Ce que je crois, en revanche, c'est que son élection a eu lieu dans des conditions très particulières, un peu comme celle de Jacques Chirac en 2002. Il est élu, en fait, en faisant un score de 23-24%, je crois, au premier tour en 2017. Il est élu contre Marine Le Pen et il s'avère qu'un certain nombre de gens, et j'en fais partie, a voté pour Emmanuel Macron afin d'écarter le risque de l'extrême droite. Je n'ai pas voté. J'ai le souvenir de la lettre que j'avais écrite et que j'avais adressée à mes électeurs pour soutenir son programme. Je n'ai pas voté pour appuyer sa politique fiscale. Je n'ai pas voté en faveur d'Emmanuel Macron pour donner un encouragement à sa vision de la Ve République. J'ai voté pour lui pour écarter le risque de l'extrême droite. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où ce jeune président, sans expérience politique, dit à chaque fois qu'il en a l'occasion, qu'il a été élu, pour son programme, pour mener à bien la politique qui est celle d'une sorte de révolution néolibérale en France, qui consiste, on le sait, à réduire drastiquement la dépense publique et prioritairement les services publics, c'est-à-dire ce qui fait le contrat social dans notre pays, l'école, les hôpitaux, les universités. Et on le voit d'ailleurs, comment tout ça se fait de manière mécanique. Et donc, il y a un hiatus sur lequel Il y a beaucoup à en dire et je crois qu'on atteint effectivement là les limites de la Ve République. Donc moi je suis très réservé, et pour ne pas dire très opposé à la manière dont ce grand débat a lieu, puisqu'il y a des questions qui ont été posées, la question de la restauration de l'ISF, qui ne figure pas dans ce débat. La question de l'affectation du CICE, je rappelle que cette année, pour la dernière fois, ce sont 40 milliards qui seront affectés en fait aux entreprises sans contrepartie et sans fléchage. Nous savons, en fait, on a une expérience du CICE, c'est François Hollande qui le met en place.
Vous étiez député à l'époque.
J'étais député, je n'avais pas voté la mise en place du CICE, d'ailleurs. C'est sans effet, ou très peu d'effet, sur l'emploi, à vrai dire. Et donc, ce sont des milliards qui sont octroyés aux entreprises, entreprises qui sont les championnes européennes, en tout cas les entreprises françaises, sont les championnes européennes de l'octroi de dividendes en France. Et donc je crois que la politique menée par Emmanuel Macron ne répond aucunement en fait aux demandes d'égalité, de justice sociale, de démocratie plus directe que les Gilets jaunes essayent de mettre sur la table depuis qu'ils se sont mobilisés, c'est-à-dire bientôt plus de 2 mois. Et je crois en effet qu'il y a une sorte de malentendu, et dans ce malentendu, je crois que l'irresponsabilité, l'entêtement du président de la République sont plus que des fautes.
Vous parlez de malentendu à propos de l'élection d'Emmanuel Macron, notamment. Il y a tout de même eu les élections législatives. Après l'élection présidentielle, une élection législative qui a confirmé l'élection présidentielle.
Nous savons, et je crois que c'est une interrogation d'ailleurs qui aujourd'hui occupe un certain nombre d'éditorialistes, de responsables politiques, de journalistes. On le sait d'ailleurs depuis le changement du calendrier en fait. Hein, je rappelle pour ceux qui nous écoutent qui n'ont pas l'âge de s'en souvenir qu'il fut un temps en fait où l'élection législative précédait l'élection présidentielle. Et avec le quinquennat, on a inversé le calendrier, c'est-à-dire que désormais on élit le président de la République ou la présidente et ensuite dans la foulée une majorité parlementaire. Il est logique, il est normal, il est assez naturel que dans la foulée d'une élection présidentielle, l'électeur donne une majorité au président qui vient d'élire. Et ça dire pour autant que le président élu a été élu pour l'application de son programme. On le voit d'ailleurs, les parlementaires élus, on a beaucoup glosé là-dessus, n'ont pas d'expérience politique, ont peu d'implantation, jouent un rôle fantomatique à l'Assemblée nationale.
Vous trouvez que l'Assemblée nationale aujourd'hui est très différente de celle que vous avez connue ? Il y avait plus d'ancrage territorial lors de votre élection en 2012 ?
Je disais tout à l'heure toute la critique qui est la mienne à l'égard de la Ve République, donc je ne ferai pas du passé une sorte d'Éden ou de monde idéal. Le vieux monde n'est pas meilleur nécessairement que le nouveau monde. En tout cas, j'ai l'impression que le nouveau monde ressemble terriblement à l'ancien souvent. Ce que je sais, c'est qu'on a en France une étroitesse de recrutement sociologique pour les élites politiques. On a eu l'impression, à juste titre d'ailleurs, qu'il y avait de nouveaux visages à l'Assemblée nationale cette fois-ci, plus de femmes, plus de minorités visibles. Mais l'étroitesse sociologique est allée se confirmant d'ailleurs.
Il y avait encore moins d'ouvriers que sous la précédente législature.
C'est même pas une question de moins d'ouvriers. On a moins de salariés, moins d'employés. Voilà. Et donc, ce sont effectivement des gens qui viennent de milieux très, très particuliers, très homogènes socialement et qui, de ce fait-là, en fait, se retrouvent dans une forme de difficulté à comprendre les appels, les revendications de milieux populaires.
C'est ce qui explique en partie la colère des Gilets jaunes, ce manque de représentativité des députés.
Je pense que c'est un des éléments, certainement. Ce qui peut expliquer en partie, c'est en grande partie l'attitude même du président de la République. Je veux dire que Emmanuel Macron n'est pas responsable de tout dans cette affaire. Ça fait 30 ans que la politique qui est menée, elle se fait à l'encontre du plus grand nombre. Ça fait 30 ans que l'on entend qu'il faut évidemment réduire les dépenses publiques, s'en prendre à l'hôpital, aux services publics, etc. C'est un laïus libéral qui se joue depuis les années 80, dont la gauche et la droite ont été les meilleurs interprètes. Il n'y a pas eu beaucoup de différence entre les politiques mises en place par les uns et les autres. En revanche, ce que je crois, c'est que la responsabilité d'Emmanuel Macron est très importante dans le déclenchement de la crise et la manière dont la crise se déploie et dans les formes qu'elle prend. J'ai un très bon ami qui est un grand écrivain, Édouard Luy, qui, avant de publier son dernier ouvrage, Qui a tué mon père, dans une discussion avec Geoffroy de Laganerie et Didier Ribon, nous disait, finalement, ce qui change avec Emmanuel Macron, c'est la fin de la honte. Ce qui signifie, en fait, que dans le passé, il y avait une volonté d'endormir un peu, pour parler familièrement, les gens. Prenez des mesures tout en essayant d'expliquer que c'était les meilleures mesures en faveur de la justice sociale, que c'était de l'équité. Avec Emmanuel Macron, ces facilités de langage ou ces expressions qui cherchent à détourner en fait l'attention, à faire passer la pilule, comme on dit, elles ont disparu en fait.
On ne met plus les formes aujourd'hui.
On ne met plus
quand
de formes.
On prend des mesures que vous qualifiez de libérales.
Que je ne qualifie pas de libérales, qui sont libérales et qui sont qualifiées par ceux-là même qui les prennent de libérales. Je vous rappelle les entretiens donnés par Emmanuel Macron à vos confrères sur les premiers de cordée, ces insultes jetées à la figure sur les illettrés, à l'époque il était ministre, il s'adressait à des femmes. Quand il s'adresse à un syndicaliste, il lui dit « t'as qu'à travailler si tu veux te payer un costume ». Quand il s'adresse à un jeune en difficulté pour trouver du travail, mais tu sais, en traversant la rue, on en trouve. Voilà, cette accumulation de mépris, cette accumulation de violence sociale de la part de quelqu'un qui, depuis l'âge de 23-24 ans, en fait, à la sortie de l'école nationale d'administration, ne rend de compte à personne, finalement, aujourd'hui, explique en très grande partie la violence, la détestation. Et je reprendrai effectivement les mots de François Ruffin lorsqu'il avait fait sa conférence de presse devant l'Élysée, la haine que l'on sent en fait dans le pays à son égard. C'est assez rare de sentir une détestation aussi brutale, aussi violente, une détestation même de la personne elle-même.
Alors cette haine, j'imagine tout de même que vous ne la partagez pas, vous ne l'encouragez pas la haine, Sergio Coronado.
Non, je la constate, enfin je... Elle me surprend, elle m'a surprise au départ, qu'elle soit si ancrée chez les gens, qu'elle soit si partagée.
Cette haine, elle aboutit aussi à des menaces physiques contre des parlementaires.
Moi, je ne suis pas de ceux, enfin, j'ai de souvenirs, je n'ai jamais jeté un pavé, agressé personne et encouragé personne aux violences physiques.
Mais parfois, les mots peuvent être violents.
Oui, vous le dites. Parfois, les mots peuvent être violents. Et donc, les mots d'Emmanuel Macron sont d'une très grande violence. Parce qu'il s'adresse...
Mais les mots de François Ruffin ne sont pas violents non plus quand
J'ai le souvenir que François Ruffin...
Quand il évoque l'assassinat de John Kennedy.
Bah, ce ne sont pas ses mots, d'ailleurs, je vous le rappelle. Ce sont les mots entendus, il le dit lui-même.
Oui, il dit, je fais rapporte. Le porte-parole.
Bah, je vous rappelle que François Ruffin est un journaliste. Qu'il a même fait un documentaire qu'il a rendu célèbre, Merci Patron, et que comme journaliste, je pense qu'il a été surpris, et c'est pour ça qu'il en fait état, de ces mots d'une très grande violence. Quand vous allez dans les manifestations, parce que moi je suis allé...
Vous avez manifesté avec les Gilets jaunes.
Avec les Gilets jaunes, il y a à la fois, et je voudrais le dire très clairement, pas une volonté d'affrontement de la part de ces gens. Au contraire, il y a eu des violences, effectivement... Elles ont été minoritaires, heureusement, et elles ont été spectaculaires, c'est vrai. Elles ont été, c'est les effets de loupe, hein, mis en exergue parfois par les chaînes d'infos continues qui ont besoin, en fait, de ces événements spectaculaires pour accrocher l'audience et la tenir en haleine.
Et puis on parle souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure, c'est un peu le propre des médias.
On a peu parlé, malheureusement, de la violence incroyable de la répression. Nous avons plusieurs milliers... d'arrestations, de gardes à vue. Nous avons des dizaines de vies brisées, des corps mutilés, des gens qui ont perdu une main, qui ne s'en remettront jamais. Enfin, quand vous êtes un jeune homme ou une jeune femme et que vous allez manifester sans volonté d'affrontement quelconque et que vous prenez un flashball, ça vous arrive à 300 km à l'heure. Ça peut vous arracher une main, ça peut vous blesser à vie, ça peut vous mutiler. Je crois en effet que la manière dont la crise est gérée est d'une très grande brutalité de la part du pouvoir. C'est la première fois, moi, que je vois, en fait, une gestion policière d'un conflit social. J'en ai connu d'autres. Alors, ils n'étaient pas de même nature, ils ne prenaient pas la même forme que les gilets jaunes, et je ne dis pas que c'est simple. En revanche, ce que je constate, c'est que l'option de la matraque est celle qui a été choisie par le pouvoir. Dans un premier temps, en mettant en exergue ces violences qui n'étaient pas majoritaires, en attisant la peur.
Vous n'avez jamais vu une telle répression policière depuis que vous avez une conscience politique, Sergio Coronado ?
J'en ai constaté une à l'époque, mais qui était en marge et qui faisait moins, je dirais, la une. Et ça s'explique d'ailleurs parce que ce sont des quartiers périphériques. J'en ai constaté une à l'époque des émeutes en banlieue, en 2005.
En 2005.
Voilà. Mais comme vous le savez, les quartiers populaires intéressent moins peut-être que ce qu'ils devraient intéresser comme sujet politique. Donc je ne dis pas que cette répression, elle est totalement inédite. Elle s'est déjà appliquée aux quartiers populaires, elle s'est appliquée à des militants d'écologie radicale, que ce soit à Bure ou à Notre-Dame-des-Landes. Mais la manière massive désormais dont elle s'applique est tout à fait inédite, en effet, et c'est désormais un choix de maintien de l'ordre. C'est dans tout le pays. Vous avez des gens qui ont été condamnés pour avoir posté un appel à manifester sur Facebook. Vous avez eu des condamnations à des peines de prison ferme pour des gens qui ont organisé des manifestations. Vous avez eu des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient un gilet jaune dans leur voiture.
Pour sortir de ce climat de violence et de haine, Sergio Coronado, est-ce que vous encouragez les gilets jaunes, les Français, à participer à ces débats et à porter leurs revendications ?
Je crois que c'est très compliqué d'encourager les Français, les gilets jaunes entre autres, à participer à un débat dont vous n'avez aucune maîtrise à la fois de son déroulé, de la méthode elle-même et de ce qui sera retenu en fait. Parce que vous prenez la responsabilité d'encourager la frustration. Et la frustration n'est pas un sentiment qui permettra de sortir de cette crise. Si vous dites aux gens, finalement, depuis 2 mois, vous vous mobilisez pour plus de justice, plus d'égalité, en mettant en exergue la question fiscale avec le rétablissement de l'ISF, en mettant en exergue la question du CICE, de ces milliards qui sont octroyés aux entreprises, si vous mettez en exergue la question du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, et que, malheureusement, le président de la République a décidé que beaucoup de thèmes seraient abordés, mais pas ceux-là. Vous prenez aussi une très lourde responsabilité en encourageant...
Qu'est-ce qui empêche les gilets jaunes d'aborder les sujets qu'ils veulent aborder, puisque ça va se dérouler en mairie ? Ils peuvent s'emparer de ce débat. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui va tout cadrer.
Ils peuvent s'emparer de ces débats localement. Donc, moi, je n'ai pas ni à encourager ni à décourager. Je constate simplement que les thèmes listés ne sont pas ceux qui ont été mis sur la table par les gilets jaunes depuis plus de 2 mois. Relisez la lettre avec calme et à tête reposée et vous constaterez que c'est même le contraire. Il est indiqué en fait des baisses d'impôts. Ils nous demandent de choisir quels impôts nous souhaiterions voir baisser et d'autre part quels services publics devraient en être affectés. Mais c'est tout le contraire qui est demandé en fait depuis le début du mouvement. Ce dont on parle, c'est de meilleures dessertes. C'est des territoires qui ont été abandonnés par le train, par les transports collectifs. C'est ces revendications-là auxquelles il faut répondre.
L'invité de Pluriel est Sergio Coronado, ancien député Europe Écologie Les Verts. Vous êtes aujourd'hui candidat aux élections européennes pour la France insoumise. On se retrouve dans quelques instants.
Animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel, nous sommes toujours en compagnie de Sergio Coronado. Je rappelle que vous êtes ancien député, candidat aux élections européennes pour la France insoumise. Alors on va parler tout à l'heure des élections européennes. Encore un mot sur le grand débat national voulu par Emmanuel Macron. J'ai vu que parmi les sujets évoqués dans cette lettre, il y a donc la transition écologique, la démocratie, la fiscalité, l'organisation de l'État, mais aussi, et c'est plus inattendu, l'immigration et la laïcité. Est-ce que ces deux thèmes ont leur place dans ce débat ?
Est-ce que c'est surprenant qu'Emmanuel Macron ait intégré ces deux éléments dans le débat ? Laïcité, immigration, je
vous n'êtes pas surpris ?
Non, je ne suis pas surpris. Il l'avait déjà fait lors de sa conférence de presse avant la fin de l'année qui avait précédé ses vœux. Je pense que c'est une façon cynique, et pour dire les choses telles que je les pense, une façon dégueulasse de pourrir le débat public, en fait. Ce sont des billes données à l'extrême droite. Alors, ça va sans doute satisfaire un bon nombre d'éditorialistes qui posent des cris d'orfraie quand ils voient les gilets jaunes, et parfois à juste titre, mais pas toujours, mais qui n'ont aucune difficulté à ouvrir leur micro, leur plateau, aux porte-parole à la fois de l'extrême droite, qu'elle soit politique ou qu'elle soit simplement intellectuelle. Ces débats-là n'ont pas été réclamés par les gilets jaunes. Il n'a pas été question d'immigration ou de laïcité dans les ronds-points, dans les manifestations. Il fut à un moment donné question...
Il y a eu quelques gilets jaunes d'extrême droite qui affichaient clairement leurs opinions.
Il y a eu à un moment donné, en effet, autour de la question du pacte de Marrakech, une forme de fake news comme ça qui a pris de l'ampleur. Rappelons pour nos spectateurs et nos auditeurs, pardon, que cet élément-là était à la fois agité, encouragé par l'extrême droite elle-même, hein, par les Dupont-Aignan et les Le Pen ensemble. Mais dans les revendications, en fait, qui sont publiées dans les groupes Facebook, qui sont apparues comme étant des revendications homogènes pour l'ensemble du mouvement, il n'en a jamais été question. Donc, rendons justice aux gilets jaunes. Je ne dis pas en fait que chaque gilet jaune ou chaque manifestant aux côtés des gilets jaunes est exemplaire. Et je voudrais dire aussi que nul besoin parfois de trouver les gens exemplaires ou de les aimer pour trouver que leurs revendications sont justes ou que la situation qui leur est faite est insupportable. Dans tout mouvement social, parfois, il y a comme ça des zones un peu grises et il faut les combattre. Et je pense qu'on les combat d'autant mieux et d'autant plus facilement qu'on se porte aux côtés de la mobilisation plutôt qu'on surplomb.
Et donc vous redoutez des dérapages à l'occasion de ce débat sur la question de l'immigration et de la laïcité, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ?
Je redoute une instrumentalisation politicienne de ces questions-là à l'approche des élections européennes, vous le savez. Le lancement de la campagne du Rassemblement national de Marine Le Pen a eu lieu hier. Et je vous le rappelle, les principaux thèmes portés par ce mouvement qui a été en tête lors des dernières élections européennes il y a 5 ans, je crois qu'il avait atteint les 23%, les principaux thèmes sont toujours la question de l'immigration et la question de la laïcité. Alors, la question de l'immigration, je voudrais plutôt préciser la question de la xénophobie plutôt que la question de l'immigration, et la question de la laïcité, c'est-à-dire la question de l'islamophobie, pour dire les choses très clairement. Marine Le Pen n'est pas laïque, elle est islamophobe. Marine Le Pen ne souhaite pas avoir un débat sur l'immigration. Elle porte des propositions xénophobes. Voilà. J'entendais, en fait, le jeune tête de liste choisi par Mme Le Pen.
Jordan Bardella.
Voilà. Dire que pas un euro ne devrait être dépensé pour les étrangers en France tant qu'un Français d'or dehors a du mal à... Et je me disais, moi qui étais député des Français de l'étranger, nous avons à peu près 2500 compatriotes qui vivent à l'étranger. Ce que nous dirions si un pays disait ou décidait en fait que pas un euro, pas un peso, pas un dollar ne serait dépensé dans le pays pour des étrangers, dont des Français en fait, qui habitent, alors qu'ils payent des impôts, alors qu'ils participent à la richesse produite, qu'ils participent à la constitution d'un patrimoine, qu'ils participent au fonctionnement des services publics là où il y en a en fait.
Et qui n'ont pas le droit de voter aux élections locales jusqu'à présent ?
En France, mais je vous rappelle que partout, dans plus en plus de pays, les étrangers qui sont régulièrement installés peuvent voter. Hein. C'est un retard français tout à fait scandaleux d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on dirait en fait ? On dirait tout simplement que ce sont des politiques xénophobes, que quand on paye des impôts, quand on participe à la richesse commune, quand on appartient en fait à la communauté nationale, il n'y a pas de raison d'être mis au banc, mis à l'écart. Et puis ça entretient cette idée que les étrangers, en fait, quand ils vivent en France, ils vivent au crochet, en fait, des Français, ce qui n'est pas le cas. Toutes les études le démontrent, les étrangers, les immigrés participent parfois davantage qu'ils n'en reçoivent à la richesse française.
Alors parlons des élections européennes, Sergio Coronado. Vous avez été député écologiste pendant 5 ans. Vous représentiez les Français de l'étranger en Amérique du Sud. Vous avez effectué, vous m'avez dit tout à l'heure, 400 déplacements dans des pays comme la Colombie, le Chili. Pourquoi avoir rejoint la France insoumise et non pas, par exemple, Yannick Jadot, qui présente une liste d'Europe Écologie Les Verts, ou bien Benoît Hamon, dont le mouvement se veut lui aussi écologiste?
D'abord, c'est un cheminement qui a pris un peu de temps. J'étais un parlementaire écologiste, en effet, vous l'avez rappelé, pendant 5 ans, qui n'a pas voté un seul budget de François Hollande, du gouvernement Hérault et ensuite Valls.
Vous étiez un frondeur.
Non, je n'étais pas un frondeur. Les frondeurs
étaient
les socialistes.
Vous n'étiez pas socialiste, mais...
Voilà, mais je n'étais pas un frondeur parce que les frondeurs ont beaucoup voté avant de se raviser. Je n'ai pas voté la prorogation de l'état d'urgence. J'ai même voté la motion de censure de la droite contre le gouvernement Valls sur la loi travail. Et c'est un cheminement, en fait, qui m'a amené à considérer que pour mener à bien la transition écologique, il ne suffit pas de crier écologie, écologie, qu'il faut affronter en fait ces politiques qui sont mises en place depuis des décennies sur l'ensemble du continent européen, qui sont des politiques de dérégulation, de casse des services publics, de diminution de la puissance publique, et que le choix fait il y a quelques années déjà par Jean-Luc Mélenchon de mettre la question de l'écologie au cœur même de son programme me semblait être... un choix judicieux, un choix d'avenir, un choix enthousiasmant en fait pour celles et ceux qui pensent qu'en fait qu'il ne peut pas y avoir de transition écologique sans remise en cause du système tel qu'il fonctionne. Moi, je ne suis pas de ceux, et je souhaiterais le dire très clairement, qui pensent que l'écologie, c'est la somme des petits gestes quotidiens. Quand j'entends Brune Poisson nous parler des pièces jointes sur nos emails ou des pailles, j'ai rien contre ça en fait. Mais je crois que c'est une manière divertissante. Pour finalement écarter les vrais sujets du débat.
On culpabilise le citoyen sur la question écologiste alors qu'en fait il faudrait plutôt s'attaquer aux multinationales.
Il faut s'attaquer aux multinationales
qui nous
se soustraient à l'impôt par exemple. Il faut s'attaquer au mode de fonctionnement de l'appareil productif. Aux échanges climaticides, aux échanges commerciaux climaticides.
Le glyphosate.
Au poids des lobbies. Est-ce que ça a du sens de signer encore des accords commerciaux comme l'Europe le fait en permanence, sans consulter d'ailleurs les parlements nationaux, en tout cas en ne tenant pas compte de la volonté populaire, en sachant en fait que ces accords commerciaux mettent à mal à la fois les populations des pays du Sud et détruisent aussi le tissu industriel des pays du Nord en permettant que des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde fassent deux fois le tour de la Terre avant d'arriver dans nos armoires, dans nos assiettes, dans notre salon, et que ça participe évidemment à la fois du dérèglement climatique et de la destruction de la biosphère. Donc je crois en effet que c'est le système qu'il faut changer et que de ce point de vue-là, la manière de concentrer la responsabilité uniquement sur les individus, sur les citoyens, est une manière de, de détourner le regard sur les vrais enjeux. Et je voudrais aussi dire, c'est peut-être la distance qui me sépare aujourd'hui de quelqu'un comme Yannick Jadot, que moi je ne suis pas européen. Je pense que la promesse qui était celle d'une Europe protectrice, d'une Europe qui construit à la fois un modèle social, qui lutte efficacement contre le changement climatique, qui produit de la démocratie en son sein, ce rêve-là a été trahi. Et donc, moi, je ne rêve pas, contrairement au vert allemand, par exemple, de gouverner avec Angela Merkel. Non pas que j'ai quelque chose de personnel contre Angela Merkel, mais je pense en effet qu'elle est en partie responsable de la situation européenne, de la mise en place d'une politique qui se fait au détriment des peuples. Je rappellerai la situation de la Grèce, je rappellerai la situation, à un moment donné, de l'Italie ou de l'Espagne. Et donc, je crois en effet que cet ordolibéralisme que l'Allemagne a promu est responsable en très grande partie à la fois de la montée des populismes en Europe et finalement d'une Europe qui ne mène pas à bien, en fait, ce qu'elle pourrait mettre en place en commun.
Sergio Coronado, vous êtes candidat aux élections européennes. Est-ce que l'Union européenne peut être réformé de l'intérieur par les députés européens, fussent-ils de gauche comme vous, ou bien l'Union ne changera que si des partis de gauche gagnent les élections individuellement dans chacun des pays concernés.
Je vous rappelle que dans, je crois que c'était dans, dans un petit ouvrage L'existentialisme est un humanisme, Sartre disait en fait, nul besoin de croire en la révolution pour essayer de la faire. En fait, je crois qu'il faut tenter. Il faut tenter parce que c'est un rêve incroyable que de vouloir construire à l'échelle d'un continent un espace démocratique, politique, de mutualisation et d'entraide et de protection en fait. Ce serait utile à la fois pour le changement climatique, pour la prospérité des peuples, pour la paix dans le monde. Et donc il faut tenter le coup. Et comment est-ce qu'on tente le coup ? Bah, d'abord en menant à bien une campagne qui mette ces questions-là au cœur du débat public. En faisant élire des parlementaires qui seront le relais, en fait, des exigences populaires, c'est utile. Le Parlement européen, j'y ai travaillé à une époque, c'est une très grande machine bureaucratique, on peut s'y perdre, donc avoir en tête qu'on est toujours là pour représenter des citoyens et qu'on doit être leur porte-voix, une nécessité.
Vous avez travaillé avec des députés européens ?
Avec Noël Mamère, qui avait été député européen il y a très longtemps. Et par ailleurs, j'ai le sentiment, j'ai la certitude que l'Union européenne sans la France n'existe pas, qu'elle n'a pas de sens. Et que donc, si un jour la France venait en fait à vouloir refonder le projet européen, à mettre ces questions-là sur la table avec les autres pays de l'Union européenne, cela aurait des conséquences. Est-ce que j'en ai la certitude que la France a un rôle particulier à jouer en Europe ? Oui, comme pays fondateur, et parce que c'est aussi la France, d'une certaine façon. Il n'y a pas là quelque chose de cocardier ou de considérer que la France a une mission particulière. Non, c'est un grand pays, c'est un pays qui compte, et c'est un pays fondateur, et donc ça a du poids. Et s'il y avait de sa part la volonté de réorienter, de refonder, je crois que ça aurait des conséquences très importantes, à la fois parmi les peuples d'Europe, et également sur les autres gouvernements.
Avec qui la France insoumise va-t-elle faire alliance au sein du Parlement européen ?
Je vous rappelle que la France insoumise en fait, a signé une déclaration à Lisbonne, l'appel de Lisbonne, qu'elle l'a signée en fait, avec toute une série de partis, mais notamment, et c'est aussi ce qui explique mon choix de rejoindre la campagne européenne de la France insoumise, elle a signé ce document avec Podemos, le mouvement espagnol, héritier des indignés, et le bloc de gauche portugais, le bloc de esquerda du Portugal, qui mène une politique très, très progressiste en Espagne. Et donc, je crois en effet que cet arc composé par cette famille politique est ce qu'il faut encourager en Europe aujourd'hui, en fait.
Comment vous voyez les choses si vous êtes élu député européen ? Il faut un groupe de quelle taille pour vraiment peser sur la Commission européenne. Quand on regarde les sondages, on voit que l'extrême droite est en tête, peut-être suivie par La République En Marche. Pour que la France insoumise pèse vraiment, il vous faut combien de députés ?
Le plus de députés possible, j'allais vous le dire. La politique n'est pas toujours une addition, en fait. Vous voyez bien que le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale est très important, plus de 300 parlementaires. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que le groupe La République En Marche pèse beaucoup dans le débat public. Enfin, je veux dire, c'est un groupe composé de godidiots qui cède absolument en permanence au gouvernement, qui est désavoué régulièrement. Et en fait, dans le fonctionnement de la Ve République, l'Assemblée nationale a été transformée en chambre d'enregistrement, en fait. Voilà. Le Sénat a démontré une plus grande capacité d'initiative et de résistance. D'ailleurs, on l'a vu, par exemple, sur la mission d'information sur les violences commises par Benalla, place de la Contrescarpe, où la commission sénatoriale a été plus pugnace, elle a été plus, en tout cas dans sa volonté de transparence, plus combative. Et donc, à l'échelle européenne, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous avez des groupes...
Sur une fonction de lanceur d'alerte ?
Sur une fonction de lanceur d'alerte, sur une fonction aussi... De construction de majorité d'idées. Il peut y avoir au Parlement européen, moi je ne suis pas de ceux qui considèrent que le monde est binaire, il y a les bons et les terribles méchants, il peut y avoir des convergences par exemple quand vous constituez des majorités avec la gauche mais aussi une partie de la droite libérale sur toute une série de sujets. Ça a été le cas sur la pêche électrique par exemple, c'est le travail qu'a mené à bien Younous Omarjee, député de la France Insoumise. avec d'autres, avec des écologistes, mais également avec des socialistes, avec des libéraux. Et donc, je pense qu'il faut à la fois se donner comme mission d'être des lanceurs d'alerte, comme vous dites, sur le poids des lobbies, sur l'importance des multinationales et la manière dont la Commission européenne ne joue pas son rôle. Elle est un peu soumise à ces intérêts-là. Et puis également, être pleinement élu dans l'institution dans laquelle on siège.
Alors, si vous êtes élu, Sergio Coronado, quels seront vos dossiers prioritaires, les premiers dossiers importants pour vous ?
Je vous ai dit un petit peu en filigrane dans la discussion que la question des traités commerciaux est une question qui me semble importante. La question de l'écologie, donc il y a plusieurs commissions qui peuvent rentrer dans ce champ d'intervention. Et puis également, parce que c'est une question qui me tient à cœur depuis fort longtemps, la question des libertés publiques, en fait. Je trouve que ce qu'on appelle les démocraties libérales connaissent depuis un certain temps, et cela me semble normal, une dérive policière, des dérives sécuritaires. La répression est devenue parfois la règle. C'est-à-dire que, au fond, les gouvernements se trouvent confrontés à la manière dure pour imposer des politiques minoritaires, en fait. C'est le cas dans beaucoup de pays, en fait, pas simplement en France aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ces gouvernements soient dictatoriaux, mais ils ont des tendances désormais répressives qu'il faut combattre. Et donc c'est aussi une des questions qui me tient à cœur, et notamment sur les questions des libertés numériques, de la surveillance de masse. Vous le savez, depuis le 11 septembre, ce sont des questions extrêmement importantes également.
Certains Français pensent que la France aurait intérêt à quitter l'Union européenne et à retrouver sa souveraineté sur ses frontières, sur sa monnaie, sur son budget. Qu'est-ce que vous répondez à ces partisans du Frexit ?
Je suis de ceux et de celles qui pensent qu'il faut retrouver de la souveraineté en France d'abord, sur ce qui est décidé dans le pays même. Et c'est une des interrogations et des critiques que je porte au fonctionnement de la Ve République. C'est pour ça que je suis favorable au passage à une VIe République. Et je crois qu'une des questions posées en filigrane par les Gilets jaunes, c'est la question du processus constituant. Et je crois que si Emmanuel Macron était visionnaire, à la hauteur des enjeux, il n'aurait pas laissé passer cette question comme il l'a fait. Je crois qu'il faut retrouver de la souveraineté également à l'échelle européenne. Mais je crois aussi aujourd'hui que pour agir dans le monde, la question de la stratégie du plan A et du plan B, il faut avoir des alliés, il faut mutualiser, il faut aussi s'organiser à l'échelle du continent. Le capitalisme, il est mondial, en fait.
Hein. Alors, le plan B, c'est une sortie de l'Union européenne
Non, ce n'est pas une sortie.
Si on n'écoute pas Jean-Luc Mélenchon.
Non, ce n'est pas une sortie. C'est une désobéissance au traité et à certaines mesures, notamment austéritaires, que ce soit les 3%. Rien ne justifie, en fait, par exemple, que la
BCE... Donc, c'est utile de le préciser, parce que souvent, Il est dit, vos adversaires vous accusent de vouloir quitter l'Union européenne.
Non, on veut la changer, l'Union européenne, on veut la refonder, on veut lui donner une orientation sociale, une orientation écologique, une orientation plus démocratique. Et donc, on y mettra les moyens qu'il faudra, le rapport de force nécessaire, et on désobéira s'il le faut.
Notamment sur les 3%.
Sur les 3%. D'ailleurs, c'est un débat qui est ancien, les 3%. Je vous rappelle quand même que la France et l'Allemagne se sont mises d'accord à une époque pour déroger aux 3%. Hein, donc ce n'est pas et donc c'est un chiffre qui a été choisi au moment de la mise en place de la monnaie unique dans la foulée, et que rien, ni d'un point de vue économique ni d'un point de vue politique, ne saurait justifier pleinement cette espèce de mantra des 3%. Rien ne justifie non plus, par exemple, que la BCE ait un statut totalement indépendant des pouvoirs politiques.
Vous avez quel numéro sur la liste aux élections européennes ?
Je suis 16e sur la liste.
16e
de la
sur
France
la liste. Il faut
insoumise.
combien de pourcentage pour être élu ?
C'est compliqué parce qu'on ne connaît pas aujourd'hui le nombre de listes qui seront en compétition. Je pense qu'il faut entre 15,5 et 17%, oui, au moins.
17%, la France insoumise.
15,5, 17%.
Ouais. La France insoumise est capable de faire ce score à la faveur de la crise des Gilets jaunes ?
Pas à la faveur de la crise des Gilets jaunes. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 19% à l'élection présidentielle et que depuis 18 mois, s'il y a une opposition dans le pays, c'est bien la France insoumise qui l'incarne à l'Assemblée nationale, mais également en dehors des institutions. Et donc je pense qu'à un moment donné, quand on a le souci, en fait, la volonté de permettre qu'il y ait une possibilité d'alternance dans ce pays face à la politique menée par Emmanuel Macron et que cette alternance ne soit pas incarnée par la droite et l'extrême droite, bah, on donne les chances à l'organisation, au mouvement qui a le plus de possibilités aujourd'hui pour incarner l'alternance.
Vous êtes en train de nous dire que la France insoumise, c'est le vote utile à gauche.
De fait, c'est un vote utile, mais pas simplement à gauche, c'est un vote utile pour l'alternance. C'est un vote utile pour celles et ceux qui souhaitent une autre politique, qui souhaitent que les services publics soient renforcés, soient rénovés, soient appuyés. Pour celles et ceux qui souhaitent une autre politique fiscale, basée sur la justice sociale. Pour celles et ceux qui souhaitent que l'écologie soit au cœur des politiques publiques. Pour celles et ceux qui souhaitent que les multinationales n'échappent pas à l'impôt et qu'on mène une bataille déterminée contre la fraude fiscale, par exemple. Oui, c'est ce vote utile pour cette politique-là.
Merci Sergio Coronado. Je rappelle que vous êtes candidat La France Insoumise aux élections européennes de mai prochain. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.